Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Ma femme d'aujourd'hui, cette jeune femme, très très tôt dans sa vie, a su ce qu'elle voulait faire. Comment le faire et par quel chemin passer, elle nous raconte cette lucidité hors du commun qu'elle a toujours eue.
Média, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Khadija Sabri, bonjour, merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Comment ça va la Khadija?
Ça va, alhamdoulilah. Merci beaucoup pour ton invitation, ça me fait énormément plaisir.
Mais ça me fait plaisir aussi de t'avoir. Alors justement, avec toi, on va voir ce que c'est qu'être une femme d'aujourd'hui, une femme entrepreneur, une femme qui monte son business. Ça remonte à quand justement?
Alors moi, mon business, ça remonte... alors en fait, je suis experte comptable, commissaire au compte depuis 2012. Je suis aussi experte en gestion de patrimoine depuis 2013. Et en fait, mon business, donc j'ai racheté au 1er juillet 2020 le cabinet dans lequel en fait j'ai évolué pendant 13 ans en CDI. Donc je l'ai racheté toute seule.
Comme une grande.
Pour accomplir mon rêve. Oui, exactement, comme une grande fille.
Ça veut dire quoi racheter un cabinet? C'est tout prendre
Ouais. Alors voilà, en fait, racheter le cabinet, c'est reprendre en fait un fonds de commerce. Mmh. C'est-à-dire que c'est un cabinet d'expertise comptable qui existait depuis 95. Moi, je suis arrivée ici en jeune diplômée, bac plus 5, et après j'ai fait mes armes dans le cabinet pendant 13 ans. Et j'ai repris en fait la direction et j'ai repris entièrement, j'ai acheté l'entreprise en elle-même.
D'accord, en France.
En France, oui,
en
tout
France,
à fait.
Absolument, vous êtes installée, justement.
Exactement.
En famille.
En famille, oui, j'ai mon mari et mes deux enfants et mes parents et mes frères et sœurs, ils sont à Casablanca.
C'est ça.
Donc je suis casablancaise.
Casablancaise, absolument. Alors, quand vous dites pour réaliser mon rêve, j'ai racheté ce cabinet dans lequel j'ai évolué, dans lequel j'étais salariée, c'est quoi votre rêve, Khadija?
Alors mon rêve, donc en fait, comme je suis née à Casablanca et j'ai grandi jusqu'à l'âge de 20 ans, je faisais des études de comptabilité. Donc j'étais en génie économique et finance. Et mon rêve, depuis l'âge de 15 ans, à Casablanca, c'est d'être experte comptable.
À 15 ans déjà.
C'est
incroyable. C'est-à-dire que je veux bien qu'à 15 ans on se dise oui, j'adore les maths, j'adore les chiffres, mais expert comptable, comment vous l'avez su justement? Comment vous avez su que c'est ce que vous vouliez faire?
En fait, j'allais dire c'est assez simple. C'est pas très simple. J'ai appris après par le temps que c'est pas donné à tout le monde en fait de savoir ce qu'on veut
très tôt,
de jeune âge.
Absolument, absolument. C'est pour ça que je suis interpellée par l'âge justement.
Alors en fait, donc à 15 ans, donc au Maroc, on doit choisir du collège ou du lycée, on doit choisir en fait une spécialité, soit sciences expérimentales, soit sciences maths, soit littérature.
Exactement.
Littérature. Et en fait, au collège, moi, j'étais bonne dans tout. Donc la littérature, les maths, j'étais la première de mon collège en scientifique, en littéraire. Et à un moment donné, en fait, je voulais pas en fait avoir une seule matière de préférence. J'aimais tout. En fait, j'aimais la culture générale, j'aimais tout. Et je me suis dit, mais en fait, moi, qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux faire des grandes études? Oui, ça c'est coché. Et qu'est-ce que je voulais vraiment? C'est quoi le métier qui m'intéressait le plus et qui cochait toutes les cases? Donc j'ai regardé, en fait, j'avais trois métiers de prédilection. C'était pilote d'avion, chirurgien et expert comptable. Alors, pourquoi expert comptable? Parce que mon père, c'est un entrepreneur. Il y a personne dans ma famille qui est expert comptable. Mais donc pilote et chirurgien, pour moi, c'était sciences maths et encore la case scientifique qui apparaît. Expertise comptable, j'ai regardé le parcours Et je suis tombée sur sur le lycée. Alors c'est pas Beau Séjour, c'est Belvédère et même Melek. Où en fait il y a une spécificité, c'est génie économique pour avec une spécialité comptabilité. Et dans les matières.
Mais pardon, Radia, quand vous dites quand tu dis j'ai cherché, il n'y avait pas Internet à l'époque, si? Non.
Non, il n'y avait pas Internet.
Il n'y avait pas Internet, c'est ça.
Internet. Non, pas du tout. Il n'y a pas Internet. Alors, c'était en 2000, en 1995, je crois.
C'est ça, exact. Donc, on était loin de Google.
J'ai 40 ans. Donc, non, il n'y avait pas Internet, mais je regardais en fait un peu partout. Qu'est-ce qu'un expert comptable, par où il passe pour être diplômé? Donc, je tapais à toutes les portes, j'allais au lycée Imam Malik pour savoir ce qu'il en était vraiment. Et quand j'étais voir, il y avait en fait toutes les matières. Il y avait les matières scientifiques et les matières économiques. Et les matières, en fait, l'expression écrite, l'expression orale.
Donc, je suis sur place, etc. En fait.
Je suis sur place.
Vous avez tu as fait du porte-à-porte un peu.
Exactement, tout à fait. J'étais à la source.
Je suis désolée de poser des questions aussi précises et bêtes, presque. Mais pourquoi, en fait, l'idée derrière, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, les jeunes vous disent on manque d'informations, on ne nous oriente pas suffisamment, on ne nous montre pas, on ne nous donne pas toutes les informations. Oui. À l'ère d'Internet, etc.
Ouais.
Toi, tu as fait du porte-à-porte en 1995 pour chercher, à 15 ans, je précise,
oui,
à 15 ans, voilà, pour chercher l'établissement qui te convenait le mieux. Toute seule?
Toute seule.
Toute seule,
ouais,
voilà.
Tout à fait.
C'est pour ça que j'insiste, en fait, avec...
Alors, toute seule, et en fait, tu pointes vraiment une c'est pas que en Maroc qu'il y a ça, c'est tous les jeunes, et c'est ce que je vois, en fait, ici. On a, en fait, c'est, il y a deux choses. C'est, la première, c'est que, on attend toujours que quelqu'un nous donne l'information, sans aller, en fait, en chercher. Et c'est toujours la faute de l'autre, c'est-à-dire je ne sais pas parce que on m'a pas dit et on m'a pas donné. Donc en fait, moi, c'est d'abord en fait la première des choses, c'est savoir qu'est-ce qu'on veut nous, c'est qui nous, c'est qui moi, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie et c'est quoi en fait tes centres d'intérêt. C'est vrai que c'est pas donné à tout le monde. On peut être là maintenant en ce moment, on peut être coaché, on peut être suivi, etc. Mais tout est en place. Il faut juste savoir ce que nous on veut, en fait, ce que le moi veut.
C'est ça.
Je sais pas si.
Non, mais je sais, complètement. Mais pour que ce moi sache ce qu'il veut, c'est toute la question.
Exactement.
C'est toute la
Après,
question.
Maintenant, en fait, il y a des personnes qui savent ce qu'ils veulent vraiment. Moi, je vois ça chez mes entrepreneurs quand je les accompagne dans leur création, dans leur stratégie. Il y en a qui savent très bien où est-ce qu'ils veulent aller.
Ils
savent, mais il y en a qui savent pas, et c'est les prendre par la main pour que ils puissent, en fait, j'allais dire, découvrir cet objectif-là. Mm. Pas leur donner l'objectif, mais qu'ils puissent découvrir cet objectif.
Ouais. Alors Khadija, justement, c'était l'enfant et l'enfant parfaite pour les parents. Studieuse, responsable.
Oui, tout à fait. Ben, enfant parfaite, mais jusqu'au moment où j'ai dit je vais aller en France.
Je vais aller là ils s'y attendaient pas.
Là ils s'y attendaient pas.
Ils étaient pas trop contents que tu partes.
Alors ils étaient pas, c'était pas question de pas content de partir, mais c'était en fait, j'étais la fille qui n'a jamais quitté en fait le foyer familial, quoi, j'allais dire. Je vivais tout le temps avec eux, et c'était pas une question non plus de manque de confiance, mais c'était une jeune fille qui part comme ça à 20 ans toute seule en France, et là-bas sur place, qu'est-ce qu'elle va rencontrer, etc. Et en fait, on a eu une longue et très bonne discussion avec mon père, en disant voilà, moi je veux faire ça. En traçant vraiment tout le parcours que je voulais faire, et je voulais être expert comptable. Donc du coup, en fait, il était un peu surpris déjà du fait que je connaisse tout le process et tout le parcours et même les écoles, etc. sur en France.
Excellent. Oui.
Et aussi, il m'a dit, bah écoute, moi je peux pas être un frein dans la réalisation de tes rêves, de tes objectifs. Bah vas-y, qu'est-ce que tu attends de moi? Je lui dis, tu signes juste ici parce que j'avais tout préparé, tout le dossier.
J'avais déjà tout préparé aussi. Tu signes, tu dis OK.
Ouais, il m'a dit OK et puis
il a payé, puis, voilà, j'imagine quoi. Aussi.
Exactement, il aussi. A payé, il m'a payé tous mes frais de scolarité parce qu'en fait la France exige aussi un certain revenu pour partir et un certain transfert de partir par mois. Là aujourd'hui, je sais pas combien, mais c'était avant, c'était minimum 500 euros par mois et que voilà, c'était
là c'est le double.
Ouais, c'est le double. Hein.
Ouais.
Donc voilà, donc c'était une confiance mutuelle et puis c'est parti quoi.
Ouais. Alors tu as des frères et sœurs qui ont eu leur bac avant toi ?
Oui. J'ai trois frères, trois grands frères et trois sœurs. Donc moi je suis l'avant-dernière. Ils ont déjà eu leur bac, des études, j'allais dire supérieures. Mais ils sont restés au Maroc.
C'était la première à quitter le pays, en fait.
J'étais la première, oui, tout à fait.
Alors, justement...
Et même un frère...
Ouais. Pardon, vas-y.
J'ai dit, même un frère à moi, il m'a dit, tu ne résisteras même pas 6 mois. Comme je suis une ambitieuse et que j'aime beaucoup les défis, j'ai résisté 20 ans, quoi.
20 ans, c'est ça. 20 ans, c'est quand même long.
Oui. Quand on fait les études jusqu'à l'âge de 30 ans, j'étais en fait diplômée à l'âge de 29-30 ans. Et après, en fait, on fait sa carrière et aussi sa petite famille. Je suis mariée et j'ai 2 enfants. Donc, ça paraît pas long. Ça passe très, très vite.
Ouais,
ça passe très, très vite. C'est quand j'ai fêté mes 40 ans l'année dernière. En juillet 2021, que je me suis rendu compte que ça faisait moitié de ma vie ici en France et la moitié au Maroc. Quoi.
Exact. Et alors les enfants, justement, ils ont quelle relation avec le Maroc ?
La culture marocaine, elle est toujours présente. Nous, en fait, déjà, en fait, on vient au Maroc au minimum une fois par an. Donc, c'est minimum, voire même deux. Quand on y va là en ce moment, on y va pour 2 mois.
D'accord.
depuis le Covid, on arrive à venir juillet-août pendant 2 mois. Sur place ici, en fait, la culture marocaine, elle est très présente. Même là, par exemple, on est en plein Ramadan. C'est sahur ensemble, le ftor ensemble. Sahur quand ils peuvent se réveiller.
Oui, voilà, exactement.
Sahur ensemble avec cette culture. On parle avec eux en arabe marocain. Aussi, il y a la culture musulmane aussi qui est présente. Tout ce qui est valeurs, on a en fait un cheminement dans notre, j'allais dire dans notre façon d'éduquer nos enfants, c'est qu'ils peuvent tout nous poser comme question. C'est un tout entier et même des fois en fait on leur dit nous on est français par nationalité mais on est aussi marocain parce que mon mari aussi il est marocain, il est de Casablanca. Et on a en fait le sang qui coule dans vos veines, c'est le sang marocain. Donc ils connaissent très très bien, j'allais dire, la culture marocaine. On fait toujours le même repas dimanche avec toute la famille, ma belle famille, elle est ici.
Donc ils ont un repère en France aussi, un repère marocain.
Ah oui, complètement.
C'est ça. Donc, ça permet finalement de garder un lien très proche avec... Mais pour toi aussi, c'est sympa. Tes parents sont loin, mais tu as ta belle famille marocaine à côté.
C'est ça, exactement. J'ai retrouvé en fait une autre famille ici. C'est ça qui est bien et que je chéris de tout mon cœur parce que c'est aussi en fait le Maroc, il est là, quoi. Il est là et il sera toujours là.
C'est ça. Et le Maroc a toujours sa place.
Il sera toujours là.
Et les parents, ils se sont fait à cette idée de te voir toi et ta petite famille une fois par an ou deux fois par an, ou contrairement aux autres qui sont proches, qui sont tout le temps là, ou bien ils gardent en tête, ils nourrissent toujours l'idée que tu puisses rentrer définitivement.
Alors, l'idée de rentrer, non, mais en fait, comme j'ai toujours eu un autre rêve aussi, c'est de créer mon cabinet d'expertise comptable aussi au Maroc, c'est ce que je suis en train de faire. Donc, en fait, ils ont toujours, comme ils savent très bien que moi, quand je mets un objectif, je le réalise. Donc, ils sont toujours, en fait, ils s'accrochent à ce rêve-là aussi de me voir beaucoup plus souvent qu'une fois ou deux fois par an. Donc l'idée c'est de faire partir là-bas, j'allais dire au moins une fois par mois, pour justement la gestion du cabinet marocain et pourquoi pas repartir au Maroc et s'installer définitivement. Je dis pourquoi pas parce qu'on même avec mes enfants et mon mari, on se pose cette question-là de repartir là-bas définitivement. Ça, c'est, elle n'est pas exclue, cette option.
Et ton cabinet, tu voudrais l'ouvrir où, à Casa ou dans une autre ville?
Alors, Casablanca et Marrakech.
D'accord.
Casablanca parce que c'est ma ville natale, Marrakech parce que c'est ma ville de cœur et c'est là où il y a déjà en fait pas mal de mes clients qui se sont installés là-bas sur place.
Ok, donc tu as déjà, on va dire, une relation professionnelle aussi avec le Maroc.
Oui, ah, oui. Ouais. Ah, le réseau professionnel, il est en train d'être, il s'est réactivé et j'ai toujours en fait ici accompagné des clients qui veulent ouvrir des investissements ou des entreprises là-bas sur place au Maroc. Je les aide volontiers, j'allais dire, parce que ça me permet aussi d'avoir ce contact professionnel sur place.
Alors, le deadline, est-ce que tu as un agenda de préparation de
2025.
2025. Pourquoi aussi loin?
Oui. Pourquoi aussi? Non, c'est pas loin. Franchement, c'est pas loin parce que, en fait, si tu veux, 2020. En fait, moi, je fonctionne toujours avec un objectif à 5 ans. Ici, j'ai racheté mon cabinet en France en 2020. Donc, je me suis dit en 2025, il y a déjà mes cabinets, j'allais dire ici en France, et mes deux cabinets au Maroc. Pour moi, pour me dire, qu'est-ce que je fais maintenant que j'ai les deux? C'est les 2025, c'est ça. Mais la création des deux cabinets, ils seront faits là, hein, fin 2022, début 2023. Mais 2025, pour moi, c'est l'assurance que tout se passe bien et que le rêve s'est réalisé.
Est-ce que tu laisses une petite marge d'imprévu dans ta vie?
Ah oui, complètement. En fait, la marge d'imprévu, elle est tout le temps là. Dans la mesure où, en fait, je me dis, et si, en fait, il y a toujours, en fait, le plan d'action, les objectifs, le plan d'action, mais il y a toujours, en fait, cette part d'imprévu, parce qu'en fait, il y a des choses qu'on peut pas maîtriser totalement. Il y a des choses que, demain, par exemple, là, j'ai rassuré mon mari, peut-être que pour partir, mais pour faire plein de choses pour le projet ici et là-bas. Mais il y a toujours cette part d'imprévu dans la mesure où on maîtrise pas tout l'environnement professionnel et personnel. Et il y a toujours, en fait, à un moment donné, je me pose et je pèse, en fait, le pour et le contre. C'est ce que je fais pour mes clients aussi au niveau professionnel et même pour mes connaissances. C'est à chaque étape, j'allais dire, de la réalisation d'une entreprise, d'un business, ou même dans des projets privés, perso, l'immobilier ou avec la famille, etc., de se poser à un moment donné et se mettre dans une bulle et dire, maintenant, en fait, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais maintenant ou pas maintenant? Par exemple, pour te dire, en 2019, je voulais créer le cabinet à Casablanca. Le Covid, il est venu par là. Donc, 2020-2021... Là, on est en 2022 et je me pose toujours la question. Et les entreprises là-bas marocaines, comment ils ont réagi? Comment ils ont? Parce qu'ils ont changé certainement. Ils ont changé leur business model. Ils ont changé leur façon de faire. Donc là, moi, je me prends en fait cette part d'imprévu pendant 3 ans pour dire je m'adapte et j'anticipe encore en fait des choses qui sont pour le futur, pour la réalisation de mon objectif.
Mais tu l'as très bien dit, j'anticipe, c'est-à-dire que tu essayes d'avoir une forme de contrôle.
Oui, complètement. En fait, je pose toutes les questions possibles et imaginables, que ce soit le positif ou le négatif, pour que je puisse être à un moment donné face. Si je suis face à ce négatif, je suis prête
oui.
à le gérer, à l'affronter. Quoi.
C'est-à-dire que tu as mis en place les scénarios. Tu es comme ça aussi avec tes enfants dans tous les domaines de vie ou principalement professionnellement?
Alors, c'est dans tous les domaines de vie. Pour moi, c'est dans tous les domaines de vie. Par exemple, moi, j'observe énormément mes enfants. Je sais, par exemple, où est-ce qu'ils sont forts, où est-ce qu'ils sont un petit peu, ils manquent de force, parce que j'aime pas parler de mot faiblesse, j'aime pas ce mot faiblesse. Ils sont moins forts et j'essaye, en fait, de les stimuler par rapport à d'autres points. Par exemple, je sais que mon fils, il a 5 ans maintenant, mais il a plein d'énergie, donc j'essaye de le canaliser par le sport, par l'école d'art, par là j'ai fait le judo, la piscine. Pareil pour ma fille, j'essaye de la canaliser. Elle est très perfectionniste, donc j'essaye de l'amener dans la façon de voir autrement en fait la perfection, qu'on peut être imparfait et qu'on peut être bien. Et en fait, c'est mon cheminement à moi. J'ai travaillé beaucoup le développement personnel aussi, donc c'est pour ça en fait, ça me fait cette qualité-là d'anticiper et de savoir réagir avec l'environnement extérieur.
Justement, anticiper c'est bien, mais il faut pas laisser non plus, je pense, l'anticipation prendre le dessus sur l'instant présent.
Exactement.
C'est un équilibre assez compliqué.
C'est compliqué. Moi,
je vous en parle parce que je suis touchée moi aussi par ça, ouais. Par l'anticipation, voilà. C'est pour ça que
tu le fais aussi.
Beaucoup. Et donc là, dernièrement, je me fais aider pour apprendre à tempérer en fait. Il y a des domaines où, par exemple, les domaines professionnels, où c'est bien d'anticiper, c'est bien d'avoir une longueur d'avance, de bien programmer, etc. Mais il y a d'autres choses dans la vie de tous les jours qu'on ne peut pas maîtriser à la règle et au stylo. Et d'ailleurs, même dans le domaine professionnel, il faut garder une forme de flexibilité. Et ça, je suis en train de l'apprendre, comme on dit, à mes dépens. Mais je me dis, je suis heureuse en même temps de l'apprendre parce que ça me fait sentir mieux.
Excellent. Non, mais c'est vrai ce que tu dis, et c'est très 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 pertinent parce que des fois en fait quand on fait les anticipations, moi c'est pareil, hein, je suis passée par là et je me fais aider aussi. C'est à un moment donné quand on réalise notre objectif. Ben, ça nous semble normal, en fait. Ça nous semble normal, la réussite, elle est là, mais c'est juste la réalisation de l'objectif. Moi, j'apprends maintenant à célébrer, en fait, ces réussites, à me poser et à me dire, ah oui, en fait, j'ai fait ça, j'ai fait tout ça. Et ça, c'était très difficile pour moi de l'admettre, mais là, maintenant, oui, je le prends avec grand plaisir.
Ben voilà, on continue toujours d'évoluer, d'apprendre... Et moi je dis, il y a une chose qui est très importante, c'est qu'à partir du moment où on réalise qu'il y a un mal-être quelque part et qu'on sait que les solutions existent, quel que soit le domaine d'aide qui peut être apporté, il faut le saisir parce qu'il n'y a pas de raison de continuer à vivre le reste de sa vie, que ce soit autant profiter de corriger ce qu'il y a à corriger et avancer, être plus sereine, mieux dans sa peau, la meilleure version de soi-même, ça passe aussi par ça, par une meilleure santé mentale, etc.
Exactement. Et moi, je rebondis juste sur une chose, c'est que en fait, même si quand je fais quelque chose et que c'est pas ce que j'attends, je dis toujours en fait une phrase que j'ai gardée depuis petite, al khayru fi ma khtarahu Allah. Et c'est tout. Et en fait, ça passe.
Ça passe.
Alhamdulillah, ça passe. Al-khayru fi ma khtarahullah. Même si c'est pas bien, c'est pas du tout ce que j'attendais. Mais quand je dis al-khayru fi ma khtarahullah, ça y est, c'est parti. Et tu laisses ça, en fait. Et c'est vrai. Et tu reviens peut-être un an, deux jours ou un an après. Et tu te dis, ah oui, c'est vrai que, en fait, c'était bien. Que
ça se passe pas comme prévu.
C'est bien ce qui m'est arrivé.
Ouais, exactement.
Et tu comprends qu'après, en fait. C'est magnifique.
Lala Khadija, merci beaucoup, 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 beaucoup pour cette belle discussion. Tête merci. Sur les épaules, pieds sur terre et en même temps très riche d'informations, d'idées avec la femme que tu es.
Merci beaucoup, Lala Yasmine. C'est un plaisir d'échanger avec toi.
N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour être au courant des dernières sorties.